On va parler des sorties, on va commencer par Chat par-ci, Chat par-là,
oui.
De Fabrice Luang-Vija et Émilie Pijard. C'est un programme de 4 courts-métrages d'animation, Laurent, des matous facétieux et attendrissants.
Ben oui, alors c'est les vacances, hein, ce sont les vacances en ce moment, donc on ne saurait trop recommander aux parents d'emmener leur progéniture voir ce film collectif qui effectivement s'intéresse aux félins. Alors il y a 4, vous le disiez, 4 cours dans ce programme. Seul le premier tombe un peu trop à mes yeux dans la mièvrerie habituelle de ce genre d'exercice. Après ça va beaucoup mieux, il n'y a pas d'anthropomorphisme, ouf, tant mieux, bravo. Il n'y a pas trop de bons sentiments, là aussi, bravo. Et il y a surtout une bonne dose souvent de non-sens, d'absurde, donc ça c'est... Ça c'est vraiment très bien parce que c'est, on trouve pas toujours ça dans la production pour les enfants. Graphiquement c'est un peu trop sage, c'est vrai. Il y a des interludes en noir et blanc qui sont à eux, à contrario, extrêmement réussis. Bref, ça dure ce qu'il faut, c'est-à-dire 1 heure. Je pense que c'est suffisant pour les enfants et les parents ne s'y ennuieront pas. Donc allez-y. Je vous la fais. Allez, cherchez bien. Si vous n'avez pas fait, vous ne seriez pas contente.
Moi, je me demandais toujours pourquoi les enfants aimaient regarder en boucle leurs films préférés. Et j'ai la réponse dans Télérama de cette semaine. C'est un beau dossier. On nous explique que c'est un mécanisme de défense et d'appropriation. C'est absolument passionnant. Tu mourras à 20 ans de Amrad Abou Alala. Premier film de ce cinéaste soudanais, par parenthèse. Son film n'est que la 8e fiction jamais produite au Soudan. C'est dire. Il est situé dans la province d'Al Jazeera de nos jours, peu après la naissance de Moussamil. Le chef religieux du village prédit qu'il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et s'enfuit. Sakina élève seul son fils, le couvant de toutes ses attentions. Et le film lui couvre ses 18 années, les humiliations de ses copains d'école, le deuil anticipé de sa mère qui compte les jours avant l'échéance, mais aussi l'interdiction d'une histoire d'amour avec sa copine d'école, parce qu'il est acquis, certes, et ça c'est fou, que son destin est plus que scellé, Laurent.
Oui, c'est évident que le sujet est là, c'est-à-dire on est emporté quand même, quoi qu'il en soit, par cette histoire de dingue où effectivement il s'agit de montrer aussi le poids du patriarcat, le poids de l'exil forcé pour aller travailler, le poids des religieux qui ont fait tant de mal à ce pays il n'y a pas encore si longtemps que ça. Donc on oublie un petit peu les éventuels scories stylistiques d'un premier film. Enfin moi je trouve qu'on les oublie parce qu'on est emporté dans cette histoire et on se dit bon ben voilà un très très beau premier film, vivement le second et puis vivement que le cinéma soudanais nous donne beaucoup plus souvent de ces nouvelles aussi, parce que manifestement, quand même, elles sont bonnes. Il faut le dire, moi je trouve un sens du cadre et des couleurs notamment qui est tout à fait saisissant.
Mickey and the Beer, un premier film signé Annabelle Attanasio. Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper depuis la mort de sa mère, de son père, un vétéran d'Irak détruit et accro aux opiacés. Et quand l'opportunité se présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait face à un choix impossible, un récit d'apprentissage et une chronique sociale tenue notamment par une comédienne fort talentueuse. Elle s'appelle Camilla Moron et elle n'a que 22 ans.
Oui, j'approuve effectivement, notamment sur la comédienne qui est extraordinaire. C'est un film qui était à l'acide, c'est une belle sélection de l'acide à Cannes cette année. C'est un premier film américain qui se déroule dans le Montana. Alors l'ours du titre, hein, ben, c'est évidemment le père, vous le disiez, avec peut-être effectivement dit comme ça un air un peu déjà vu, c'est-à-dire l'histoire de l'ado qui joue l'adulte, hein, finalement c'est ça, qui joue la maturité par rapport au père qui est une sorte d'enfant qui reste un enfant, il est récupéré par la police régulièrement, etc. Ça, on peut se dire, ah, on l'a déjà vu, c'est pas très intéressant. Et en fait, tout le reste, c'est-à-dire la façon dont notamment la réalisatrice considère ses personnages, leur donne beaucoup d'intensité, beaucoup de complexité, fait qu'il y a aussi les seconds rôles qui sont très complexes et très très bien vus. Tout ça décorsette le film, le fait largement exploser et on se dit vraiment qu'une cinéaste est née avec ce premier long métrage.
Eh bien, encore un premier film avec ce divan à Tunis de Manel Labidi. Après avoir exercé en France, Selma, c'est Golshifteh Farahani, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène. Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer à exercer. Mais quel sujet passionnant de radiographier un pays via la psychanalyse, un pays au lendemain de sa Révolution, qui a tellement envie de parler, d'évoquer aussi, et au travers de traumas individuels, les incertitudes collectives. Seulement, Seulement voilà, la réalisatrice, dans son envie d'en faire une comédie, balance entre deux tonalités, le burlesque et le psy du coup se retrouve caricaturé, Laurent.
Ah bah oui, il passe quasiment à la trappe, à part un personnage de coiffeuse, tout le reste est sacrifié à une sorte de pittoresque dont on finit par se ficher, qui prend un peu trop de surplomb avec les personnages. On se dit que si quelqu'un radiographiait un petit village français de cette façon-là, on trouverait ça abominable. Alors là, on trouve ça pittoresque, mais c'est pas bien, c'est vraiment très dommage, cette espèce de entraînement à Tunis qui aurait pu être le film et qui aurait dû être le film, ben on ne le voit pas, avec même presque, ça aurait pu être acide, ça aurait pu être une sorte de comédie à l'italienne. De ce point de vue-là, la promesse est pas tenue.
Il y a quand même des très jolis moments dans le film, là.
Oui, et puis il faut dire que Goldshifteh Farahani, décidément, ouais, même là, là, elle est
lumineuse.
Absolument lumineuse.
On rappelle La fille au bracelet, même si on y a consacré une émission, de Stéphane de Moustier, Laurent.
Bien sûr, deuxième film de ce talentueux réalisateur, avec un très beau casting, j'insiste un peu, Mélissa Gers, Chiara Mastroianni, Roche Dizem et Annie Mercier en avocate, convoyée chez Christophe Honoré dans la pièce Nouveau Roman, qui est une actrice extraordinaire qu'on devrait voir, je trouve, plus souvent. C'est un très beau film de procès, un très beau film sur l'adolescence.
C'est décidément la semaine des premiers films. Il s'appelle Deux, celui-là, pour le film d'un cinéaste italien installé en France. Il s'appelle Filippo Meneghetti. Nina et Madeleine, deux femmes un peu âgées, sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que des simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leur vie ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine, qui est jouée par Léa Drucker. C'est une histoire d'amour donc entre deux femmes retraitées, un sujet casse-gueule, traité subtilement, c'est doux et âpre à la fois, mêlé aussi dans l'idée d'un amour contraint par la société, la famille de l'une et la liberté de l'autre. Un film surtout qui est complètement porté par deux immenses comédiennes, la française Martine Chevalier et l'allemande Barbara Sukowa.
Oui, pour moi ce sont vraiment les deux atouts principaux du film, notamment Martine Chevalier, votre ex-collègue et consoeur de la Comédie française, Dominique Blanc. On se souvient d'elle, et vraiment, c'est une très très grande et belle actrice. Moi j'ai appris qu'il y avait 6 années d'écriture derrière, je trouve que ça se sent un peu et qu'on aurait aimé que le film explose un peu plus, soit un peu plus émouvant.
Après ses 4 Oscars, la ressortie de Parasite, Bong Joon-ho, dans 157 salles. Nous avions, bien sûr, reçu en octobre à Lyon, Festival Lumière, Bong Joon-ho, et nous avions prédit sa sélection aux Oscars. On l'écoute.
Je ne pense pas que c'est un crime ou un crime. 참으로 시의적절하다.
Vous êtes en lice pour les prochains Oscars. Est-ce que c'est important pour vous cette reconnaissance américaine ?
Nominée, tu l'attendais ?
Je suis nominée.
Non, mais vous serez dans la liste des nominés.
Je vous l'apprends. Non, mais en fait, on ne sait pas encore. Ah, tout d'un coup, ça m'a surpris. Je me dis quoi ?
Non.
Parce que pour l'instant, non, rien n'est défini.
Non. La question, c'est est-ce que c'est important d'être connu en Amérique ?
Ah, que. 미국에서 지난주에 개봉을 했어요.
En fait, le film est sorti la semaine dernière aux États-Unis.
적은 수의 극장에서 이제 조금씩 늘려가는 상황이죠.
Au début, c'était des petites salles. Maintenant, de plus en plus, le nombre de salles a augmenté.
관객들의 어떤 뜨거운 반응이 있어서 그게 제일.
Donc, en tout cas, le public est vraiment très chaleureux et reçoit bien le film. Donc, ça, c'est important.
영화를 개봉할 때 항상 뭐 미국에서의 반응이 어떠냐, 뭐 프랑스에서 어떠냐, 한국이 어떠냐. 물론 다 중요하겠지만
tout est très important, la réception du public aux États-Unis, en France, en Corée.
이기적으로 생각해요.
Mais moi je suis très égoïste en fait.
아주 이기적인 기준점을 갖고
Donc,
있어요.
Mon...
내가 재밌으면
ma référence en fait c'est moi. Il faut que ça me plaise, il faut que le film m'amuse, parce qu'en fait en général quand je tourne je veux faire un film pour moi. En fait je fais vraiment un film pour moi, pour que moi je suis content du film et que je suis satisfait, que je sois satisfait. Mais les producteurs bien sûr ils aiment pas du tout quand je dis ça.
C'est super comme propos Dominique Blanc, vouloir faire un film pour lui,
pas pour moi. Pour soi, oui, c'est génial.
Donc ça s'appelle Parasite Bong Joon-ho et c'est ressorti. Et Laurent,
ça va sortir en noir et blanc.
Oui, oui, ah, ça c'est une drôle d'expérience.
Oui,
un festival annoncé.
Alors un festival, ça sera à Pézenas, figurez-vous, du côté de Montpellier. Pendant quelques jours, on va voir beaucoup de films du Nord, de la Finlande, de l'Islande. Donc il y aura du Koris Maki comme vous aimez, mais bien sûr, voilà, du Joachim Trier aussi. Voilà, ouais. Voilà, beaucoup de films et puis d'autres hommages, des avant-premières. C'est un joli festival qui se déroule au cinéma Le Molière. Pour vous, Dominique Blanc, nous avons deux cadeaux. Deux cadeaux parce qu'on pense qu'il faut toujours en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à Robert Bresson. Alors on vous offre Mouchette et Au hasard Balthazar qui viennent de sortir, on le dit évidemment aussi à nos auditeurs, chez Potemkin. Deux très beaux DVD, deux très belles versions restaurées avec des suppléments à la hauteur de ces deux films, l'un 1966, l'un l'autre 1967.
Magnifique, merci beaucoup.
Au diapason, voilà, merci à vous.
Et on rappelle que vous êtes encore à l'affiche au Français, on dirait le Festival de Cannes quand on entre au Français, et les gens ont tous des pancartes, vous n'avez pas une place, vous avez pas... on se croirait en bas des marches, voilà. Et bientôt avec Christophe Honoré chez Proust, voilà, merci infiniment.
Merci à vous.
C'était une première et une belle fois avec vous.